le décryptage d'Amélie Beaucourt. Et c'est ainsi que se referme ce journal. 9h10, ici à Paris. Tout de suite, Nathalie Amar avec Appel sur l'actualité.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous-jacente,
j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour, à l'approche de Noël, nous partageons avec vous aujourd'hui des contes tirés des belles histoires parues aux éditions Bayard et de Histoires pour les petits aux éditions Milan.
Un bébé pour le Père Noël, une histoire écrite par Catherine Delaza. Ce matin, le Père Noël reçoit une lettre. Cher Père Noël, pour Noël, je voudrais un ours en pluche. Signé, le grand loup des bois. Le Père Noël n'y comprend rien.
Qu'est-ce qui lui prend celui-là ? Je n'ai quand même pas apporté des cadeaux à un loup.
Et la lettre vole à la poubelle. Mais le renne velours qui passe par là dit « Père Noël, tu n'as peut-être pas tout lu ? Il y a sûrement une explication. » Le Père Noël reprend la lettre chiffonnée, il la déplie, et il lit en bas de la page « C'est pour un bébé que j'ai trouvé. » Le renne velours pointe son sabot sur la grande carte étalée sur le bureau et dit « Je connais la tanière de ce loup, c'est là. » Le Père Noël ronchonne dans sa barbe.
Oh, « Est-ce qu'il y a une cheminée au moins dans une tanière de loup ?»
Mais malgré tout, il part aux ateliers voir s'il lui reste un ours en peluche. La nuit de Noël arrive. Le Père Noël a déjà distribué un bon milliard de cadeaux. Maintenant, le traîneau survole une grande forêt. Il descend et il se pose sur un rocher juste au-dessus de la tanière du grand loup. Entre deux louveteaux endormis, un petit bébé est blotti. Le grand loup explique «
J'ai trouvé ce bébé abandonnée dans la forêt. C'est une petite fille. Je l'ai appelée Marguerite. Pour le moment, ma louve lui donne son lait, mais quand elle va grandir, j'ai l'impression que ce sera difficile de lui apprendre à chasser. Ce qu'il faudrait pour ce bébé, c'est une famille qui lui ressemble. Je pensais que tu pourrais nous trouver ça, Père Noël. Toi qui connais tellement de monde. Bien sûr, le Père Noël commence par grogner. Je suis pas venu pour adopter un bébé. Le renne velours essaie de le calmer. Voyons, Père Noël, on te demande seulement de trouver des parents pour Marguerite. Le Père Noël bougonne. Bon, d'accord. Il sort de sa hotte un couffin de poupée, une couverture jaune et un drap blanc. Et il y couche Marguerite avec son ours en pluche, en bordant bien des deux côtés. Marguerite, le nez contre son ours, se croit toujours entre les louveteaux et elle ronronne comme un petit loup. Le traîneau s'élance dans la nuit. Mais le Père Noël ne peut pas dire au revoir parce qu'il tient les rênes de la main droite et que Marguerite lui tient très fort la main gauche. Le traîneau vole longtemps au milieu des étoiles, puis il s'arrête au-dessus d'une cheminée. Le Père Noël descend déposer un cadeau. Mais Marguerite, qui était bercée par le galop des rênes, se met aussitôt à pleurer. Le Père Noël a deviné. Continuez les rênes, attendez-moi en galopant en rond autour des cheminées, Marguerite a besoin d'être bercée. Le bébé se calme aussitôt. Le Père Noël s'allonge un peu sur son siège pour se reposer. Mais il ne se repose pas longtemps, parce que quelqu'un s'amuse à lui tirer la barbe. C'est Marguerite, elle a envie de jouer. Bientôt, le traîneau frôle une maison aux fenêtres éclairées. Un monsieur et une dame sont en train de dîner. La dame dit avec une voix de rêve, j'ai cru voir passer le traîneau du Père Noël. Le monsieur répond doucement, il fallait pas regarder. Tu sais bien qu'il ne s'arrête pas dans les maisons où il n'y a pas d'enfants. La dame reprend avec sa voix de rêve. Ah, moi, cette nuit, j'ai envie de laisser la fenêtre ouverte. Qui sait? Et si le Père Noël nous a apporté le bébé dont nous rêvons depuis si longtemps? Le monsieur dit, « Non, non, il ne faut pas rêver comme ça. » Mais la dame continue, « Et si mon bébé pleure parfois, la nuit, je me lèverai pour aller le consoler et je tiendrai sa petite main jusqu'à ce qu'il s'endorme. » Le monsieur dit tout bas, « Tu sais bien qu'il ne faut pas penser à ça. » Mais la dame n'a pas l'air de l'entendre. Les lumières s'éteignent, le monsieur et la dame sont allés se coucher. Mais ils ont laissé une fenêtre entrouverte. Le Père Noël arrête son traîneau juste devant, puis il entre dans la maison en portant le couffin et un appareil photo. Au bout de 5 minutes, le Père Noël revient en tenant 2 photos, une pour lui et une pour la famille Loup. Puis comme le Père Noël ne se décide pas à repartir, le renne velours lui dit « Allons, Père Noël, il faut y aller maintenant. » Tous les cadeaux sont distribués, le Père Noël retrouve sa maison. Dans son album, il colle la photo de Marguerite et il écrit en dessous « Souvenir du plus beau Noël de ma vie. » Alors le renne velours lui dit tout bas « Tu verras, Père Noël, quand l'année prochaine tu apporteras son premier cadeau à Marguerite là-bas, chez son papa et sa maman, alors là, Noël sera encore plus beau. »
Les lutins cordonniers. Un conte adapté des frères Grimm par Agnès Catala. Il était une fois un cordonnier si pauvre qu'il n'avait même pas de quoi se chausser. Pour sa seule richesse, il possédait un bout de cuir. c'est-à-dire de quoi fabriquer une paire de souliers pour le client qui voudrait bien les acheter. Ce bout de cuir était l'unique espoir du cordonnier de gagner de l'argent, et il avait peur de le gâcher. Aussi, après avoir découpé, il préféra se coucher, se disant qu'il continuerait le lendemain quand il serait reposé. Mais au petit matin, une surprise attendait le cordonnier. Les chaussures étaient terminées et elles étaient magnifiques, cousues avec finesse, cirées avec délicatesse et lacées avec adresse. Dès qu'il les mit en vitrine, le cordonnier les vendit. Et à très bon prix. Avec l'argent, le cordonnier courut acheter assez de cuir pour faire deux paires de chaussures. Comme la veille, il tailla le cuir avant de se coucher. Et que croyez-vous qu'il arriva ? À son réveil, le cordonnier trouva deux paires de souliers. Sitôt en vitrine, les souliers furent achetés. Avec l'argent gagné, le cordonnier courut acheter de quoi faire quatre paires qu'il vendit le jour suivant. Puis 8 paires, puis 16 paires, puis 32 paires, et ainsi de suite jusqu'à la semaine de Noël. Les clients se bousculaient chez le cordonnier, devenu aussi célèbre que le Père Noël. Le cordonnier, qui ne comprenait toujours pas comment tout cela arrivait, avait appelé sa boutique « À la chaussure magique ». Il est vrai que ses souliers, apparaissant la nuit, comme par magie, avaient embelli sa vie. Le cordonnier n'avait qu'à tailler ses cuirs le soir pour découvrir le matin des chaussures magnifiquement réalisées. Quelques jours avant Noël, sa femme lui dit « Quelqu'un nous aide pendant la nuit. N'as-tu pas envie de savoir qui ?»« Si, » répondit le cordonnier, « restons cachés dans le placard et regardons ce qui se passe ce soir. » Ding ! Au 12e coup de minuit, 2 lutins, pas plus hauts qu'une grappe de raisin, apparurent et trottinèrent jusqu'à l'établi. Malgré le froid, ils étaient presque nus, vêtus de guenilles et d'un bonnet. Sous les yeux ébahis du cordonnier et de sa femme, les lutins se mirent à travailler avec entrain. Ils n'arrêtèrent pas avant que toutes les chaussures soient finies. Puis ils disparurent comme ils avaient surgi. Le lendemain, la femme dit à son mari « Grâce à ces lutins, nous ne manquons de rien. Nous devons trouver comment les remercier. Moi, je vais leur coudre des habits d'hiver. » « Et toi, tu vas leur faire des bottes fourrées. »«
C'est une bonne idée !» s'exclama le cordonnier.
Chacun se mit au travail, et le soir, avant minuit, tous deux déposèrent leurs cadeaux sur l'établi. Puis ils retournèrent dans leur cachette, ravis d'observer le bonheur de leur minuscule bienfaiteur. Ding ! Au 12e coup de minuit, les lutins trottinèrent jusqu'à l'établi. Au lieu des morceaux de cuir habituels, ils virent les bottes et les habits. Aussitôt, les lutins enfilèrent leurs cadeaux en chantant gaiement « Youpi, youpi, yo, nous voilà au chaud, youpi, youpi, yo, nous voilà tout beau, youpi, youpi, yé, fini les souliers !» Après cette nuit, les lutins aux doigts de fée ne revinrent jamais. Quant au cordonnier, il passa un joyeux Noël. Puis, après la fête, il se mit à travailler comme les lutins le lui avaient appris, avec entrain et fantaisie, et ses chaussures continuèrent à se vendre comme des petits pains. Youpi, youpi in, merci les lutins.
Joyeux Noël entre amis, une histoire d'Elissa Béjaoui. Le chêne centenaire abrite nids et tanières. Au rez-de-chaussée, sous les racines, vit Sphinx le lynx. Au premier habite Lynn l'hermine, et au sommet loge Cerfeuil l'écureuil. Les trois voisins ne se sont jamais vraiment parlé, mais cet hiver, une aventure va les rapprocher. Le matin de Noël, Sphinx ouvre ses yeux dorés. « Mon cadeau !» s'écrie le félin. « Il est arrivé !» Mais le lynx déchante aussitôt. « Ce paquet est trop gros pour contenir un yo-yo. » Sur l'étiquette, c'est pourtant la bonne adresse. « Chêne centenaire, au cœur de la forêt, derrière le rocher des fées. » Oui, mais le prénom du lynx n'est pas indiqué. « Le Père Noël s'est-il trompé ?» se demande Sphinx. « Est-ce à l'un de mes voisins que ce paquet est destiné ?» Il hésite à monter au premier, de peur de déranger sa voisine. Qui sait ce qu'elle pourrait penser ? Qu'il vient pour la manger ? D'un autre côté, il aimerait mettre la patte sur son yo-yo. Alors Sphinx grimpe l'escalier. Lynn vient de se lever. Elle observe le paquet fin et allongé que le Père Noël a déposé. « Ça ne peut pas être le nounours que j'ai commandé, » se dit l'hermine. Soudain, on frappe à sa porte. Lynn ouvre prudemment. Dans l'ombre, elle distingue des oreilles pointues et un museau blanc. C'est le voisin du rez-de-chaussée. Doit-elle se méfier ?« Je vous prie de m'excuser, » dit Sphinx poliment. « Je me demandais si ce paquet n'était pas à vous. » Rassurée, l'hermine invite Sphinx à entrer. Elle tâte le cadeau à travers le papier. Il est mou comme un doudou. « Ce cadeau est pour moi, en effet, et celui-ci doit être à vous, » dit-elle en tendant à Sphinx le paquet fin et allongé. Mais le lynx fronce les moustaches. « Non, » dit-il, « moi j'attends quelque chose de petit et rond. » Lynn et Sphinx réfléchissent. « Ce cadeau doit être à notre voisin du haut, » murmure l'hermine. « Allons le lui apporter, » suggère le lynx, impatient de récupérer son yo-yo. Cerfeuil s'étire après une bonne nuit de sommeil. Étonné, il fixe un petit paquet rond et grommelle. « Ça, ce n'est pas un cerf-volant. » Soudain, on frappe à sa porte. L'écureuil ouvre prudemment. Dans l'ombre, il distingue quatre oreilles et deux museaux blancs. Que peuvent bien lui vouloir ses voisins ? Après tout, il ne les connaît pas bien. Doit-il se méfier ? Nous sommes désolés, dit l'hermine. Nos cadeaux de Noël ont été mélangés, dit le lynx. Et Sphinx donne à Cerfeuil le paquet allongé. D'un coup d'œil, l'écureuil comprend qu'il s'agit de son cerf-volant. Ce cadeau est pour moi, en effet, et celui-ci doit être à vous, dit-il, en donnant à Sphinx ce petit paquet rond. Oui, c'est mon yo-yo, merci, dit le lynx ravi. Ouf, tout est bien qui finit bien et chacun a enfin le cadeau qui lui appartient. Sphinx et Lynn peuvent s'en aller et Cerfeuil retourner à son petit déjeuner. Pourtant, personne ne bouge un poil. Les trois voisins viennent à peine de se rencontrer. Ne serait-il pas dommage de se quitter ? L'écureuil finit par proposer « Voulez-vous entrer ? J'ai un excellent cake aux noisettes à partager. » Sphinx et Lynn acceptent volontiers. Et pour la première fois, les voisins mangent et discutent tous les trois. Puis, leur petit déjeuner de Noël avalé, chacun ouvre son paquet. Leurs cadeaux sont parfaits, pile ce qu'ils souhaitaient. Mais le plus beau cadeau que le Père Noël leur a fait, c'est de tout mélanger. Grâce à lui, Sphinx, Lynn et Cerfeuil ont passé Noël ensemble, et pas seuls de leur côté. Et les trois voisins sont devenus copains.
Panique Père Noël, écrite par Nanou Mila. Noël approche à grands pas dans le village du Père Noël, et tout le monde est joyeux. Les commerçants participent aux derniers préparatifs pour le long voyage du Père Noël. Chaque année, avant le grand départ, le Père Noël redonne un coup d'éclat à toute sa panoplie de travail qui s'use au fil des années. Il fait nettoyer son costume chez Bon Laveur, le blanchisseur. Il fait briller ses bottes chez Bon Pied, le cordonnier. Il fait réparer son traîneau chez Bon Carillon, le forgeron. Ce jour du 24 décembre, le Père Noël se rend tôt chez Bien Rasé, le vieux barbier du village. Celui-ci a fermé son salon pour mieux s'occuper de son client préféré. Il détend le gros bonhomme avec un bon massage du cuir chevelu et défait tous les nœuds de sa longue barbe blanche. Bien rasé, lui dit « Un jour, je serai obligé de vous couper la barbe, car je n'arriverai plus à défaire tous les nœuds. »« Ah, j'aimerais bien voir ça !» répond le Père Noël. Quand le Père Noël sort du salon, il sent sa barbe aussi légère que le vent et aussi douce que la laine. Le Père Noël, de bonne humeur, se dirige vers la boutique de Bon Laveur le Blanchisseur. Il est content de récupérer ses vêtements pour avoir bien chaud dans son traîneau. « Bonjour, Bon Laveur !»«
Bonjour, Père Noël !» lui répond ce dernier d'un air confus.
« Où sont mes beaux habits? As-tu réussi à enlever les taches de lait que j'avais renversées dessus ?» demande le Père Noël, inquiet.
Bon Laveur va chercher la tenue du Père Noël dans l'arrière-boutique et dit tout embêté « J'ai un gros problème avec vos vêtements. Ils ont rétréci au nettoyage. Je suis navré. J'ai mal réglé la température de ma machine à laver. »«
Sacré nom d'une barbe !» s'exclame le Père Noël. « Mais comment vais-je m'habiller? Je n'ai que cette tenue pour ma tournée. Je vais grelotter toute la nuit. »
Le Père Noël devient aussi rouge que ses habits. Puis il sort en marmonnant dans sa barbe, mais personne ne comprend ce qu'il bougonne. Dans le froid glacial, le Père Noël s'avance vers la boutique de Bonpied le cordonnier. Il est content de retrouver ses bottes qui vont le tenir au chaud durant sa tournée.
« Bonjour Bonpied, as-tu réussi à faire me briller mes belles bottes ?» demande le Père Noël inquiet.
« J'ai eu un gros problème avec vos bottes, » dit Bonpied. « Elles ont craqué au brossage. Je suis navré, je n'ai pas mesuré ma force. »«
Sacré nom d'une barbe !» s'exclame le Père Noël. « Comment vais-je me chausser? Je vais avoir froid jusqu'au mollet. »
Les joues du Père Noël deviennent rouges écarlates. Puis il sort en marmonnant dans sa barbe, mais personne ne comprend ce qu'il bougonne. Enfin, le Père Noël se rend chez Bon Carillon le forgeron. Il est content de revoir son traîneau pour voyager cette nuit.
« Bonjour, Bon Carillon !» As-tu réussi à lisser les patins de mon traîneau ?
Demande le Père Noël de plus en plus inquiet.
J'ai eu un gros problème avec vos patins, dit Bon Carillon. Ils sont cassés. Je suis navré, j'ai appuyé trop fort avec ma lime.
Oh, sacré nom d'une barbe ! S'exclame le Père Noël. Comment vais-je me déplacer ? Je ne vais jamais arriver à voler dans le ciel.
Le visage du Père Noël devient rouge, cramoisi. Puis il sort en marmonnant dans sa barbe.
« Je n'ai plus de vêtements, plus de bottes et plus de traîneaux. C'est une catastrophe !»
De retour à la maison, le Père Noël rentre en claquant la porte. Il raconte à la Mère Noël ses mésaventures.
« Jamais de ma longue vie de Père Noël, je n'ai vu ça. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir faire ma tournée cette nuit. »
La Mère Noël le réconforte. Elle lui prépare une bonne tasse de lait chaud au miel.
« Calme-toi. Tu es tout rouge. Tu as besoin de te reposer. »« Me reposer ? Il faut que je trouve un moyen de distribuer les cadeaux ce soir !»
s'écrie le Père Noël désespéré. Le Père Noël monte dans sa chambre et essaie de trouver une tenue chaude dans son armoire. Rien à faire. Il fait les 100 pas en se grattant la tête.
Oh, je pourrais peut-être y aller en pull. Oh, je serais frigorifié, mais tant pis. Mais sans mon traîneau, ben impossible. Oh, sacré nom d'une barbe. Je vais devoir reporter ma tournée de Noël. Mais personne n'a jamais vu ça.
Complètement découragé, le Père Noël descend dans le salon.
Mais que voit-il au pied du grand sapin? Par les nœuds de ma barbe. Oh, quelle jolie botte! « Quels beaux habits !»
s'exclame-t-il, les yeux remplis d'étincelles. Très surpris, il accourt vers la Mère Noël. Il n'en croit pas ses yeux. C'est ainsi que le Père Noël, emmitouflé dans ses vêtements chauds et chaussé de ses bottes brillantes, s'est envolé dans son nouveau traîneau, distribué ses cadeaux à tous les enfants du monde.
« Bon voyage !» s'écrient les habitants du village. « Oh, joyeux Noël !»
répond le Père Noël fou de joie sous le tintement des grelots de ses rennes qui s'éloignent dans le ciel.
Visite surprise à Noël, une histoire écrite par Elsa de Vernoy. Anna habite dans une drôle de maison creusée dans la pierre de la colline. Ses fenêtres s'ouvrent sur la campagne et son toit donne sur la forêt. En cette nuit de Noël, la maison est entièrement recouverte de neige. Ce soir, Anna ne veut pas dormir. Elle s'est levée de son lit sans faire de bruit et s'est installée devant la cheminée. Anna attend le Père Noël. Une couverture sur les épaules et des chaussons bien chauds aux pieds, elle essaie de ne pas s'endormir avant la visite du vieil homme à la barbe blanche. Mais ses yeux papillotent, puis se ferment. Soudain, un grand bruit se fait entendre dans la cheminée. Cela réveille Anna d'un coup. « Que fais-tu là, lapin ? » s'étonne-t-elle. « Je suis poursuivie par un renard !» répond le lapin gris essoufflé. J'ai aperçu le trou de ta cheminée et j'ai pensé que c'était un terrier. Alors, hop, je me suis glissée à l'intérieur et me voilà. Est-ce que je peux rester un peu ici ? Si tu veux, lapin, répond Anna, viens t'asseoir à côté de moi et si tu as froid, mets un bout de couverture sur toi. Soudain, un grand bruit se fait entendre dans la cheminée. Sous la couverture, Anna et le lapin gris sursautent. Que fais-tu là, renard ? Demande Anna. Je suis poursuivie par un ours, répond le renard roux, essoufflé. Le lapin souffle à l'oreille de la petite fille. C'est le méchant renard qui me courait après. Mais Anna ne trouve pas que ce renard ait l'air méchant. Alors elle lui propose aussi, viens t'asseoir à côté de moi, et si tu as froid, mets un bout de couverture sur toi. Le renard roux s'installe. Le renard, le lapin et la petite fille scrutent l'entrée de la cheminée. Anna attend sagement le Père Noël, mais le lapin et le renard se disputent la couverture bruyamment. « Tu prends toute la place !» râle le lapin. « C'est plutôt toi qui mets tes pattes sales sur la couverture propre !» répond le renard. « Ah, dis donc, t'es aussi sale que moi !» « Ça suffit, tous les deux !» s'énerve Anna. « Vous n'êtes pas chez moi pour vous bagarrer comme ça !» Des animaux comme vous. Anna n'a pas le temps de finir sa phrase. Un grand bruit se fait entendre dans la cheminée, puis plus rien, que des nurf, nurf. Il y a un animal coincé, s'écrie Anna en se levant brusquement. C'est sûrement l'ours, s'exclame le renard affolé. Le renard a si peur qu'il n'ose pas s'approcher. Il préfère s'enrouler dans la couverture et se faire le plus invisible possible. Le lapin n'est pas plus courageux. Il se cache sous la couverture, de l'autre côté. Anna n'a peur de rien, ni de personne. Elle se précipite vers la cheminée et elle demande « Qui es-tu, le coincé ?» Ce n'est pas une voix d'ours qui lui répond. « Je suis le renne du Père Noël. » Puis il explique « Comme je voulais aider le Père Noël, je lui ai proposé de me faufiler à sa place. Mais je ne sais pas ce que j'ai fichu avec mes pattes. La droite est sur la gauche, celle de derrière est devant. Je suis bloqué, je ne peux plus bouger. » Anna le rassure. « On va te sortir de là. » Le renard essaie d'attraper une patte du renne, tandis que le lapin propose de grimper sur le toit pour le décoincer par l'autre côté. Seulement, le lapin revient aussitôt, inquiet. « Il y a un ours très bizarre sur le toit !»«
Bizarre comment ?» demande Anna.
« C'est un ours habillé tout en rouge, installé dans un traîneau, et il n'a pas l'air de vouloir bouger. »«
C'est normal, rit Anna. Ce n'est pas un ours, c'est le Père Noël. » Il ne sait pas que son renne est coincé, alors il l'attend.
Allez, courage, lapin, remonte sur le toit et va dégager le renne de la cheminée.
Puisqu'il n'y a plus de danger, le lapin retourne sur le toit.
Quand tout le monde est à sa place, Anna leur explique comment faire. Renard tire doucement la patte du renne en la glissant devant. Et toi, lapin, saute sur son derrière. Le lapin et le renard font un travail formidable. À deux, ils décoincent le renne qui atterrit au bas de la cheminée. Anna est toute contente. Mais maintenant, elle n'a plus qu'une seule idée en tête. Voir le Père Noël. En vrai. Le renne lui propose alors.
Grimpe sur mon dos, je t'emmène jusqu'à lui.
Anna saute sur le dos du renne qui s'envole vers le toit. En voyant le Père Noël, Anna a le cœur qui bat. Le renne raconte son aventure dans la cheminée, puis le Père Noël déclare.
Et si pour remercier Anna et ses amis, tu leur montrais comment tu sais voyager dans la nuit?
Oh là là! Un tour en traîneau avec le Père Noël! Anna saute de joie. Vite, elle s'installe avec le renard et le lapin et les voilà partis, voletant au-dessus des cheminées dans le ciel étoilé. Avant la fin de la nuit, le Père Noël ramène tous les amis sur le toit de la maison d'Anna.
« Joyeux Noël, Anna !» s'exclame le Père Noël avant de repartir.
« Merci, Père Noël, je n'oublierai jamais ce voyage merveilleux !» murmure la petite fille, des paillettes plein les yeux. Puis le lapin et le renard repartent ensemble dans la forêt en faisant de grands signes à Anna.
« Merci, Anna, et à la prochaine fois !» Maintenant, on sait comment entrer chez toi.
Son avènement, arrêtez au roi de l'Orient, venez vous unir à nos fêtes. Arrêtez au roi de l'Orient, venez adorer cet
Le Noël de Monsieur Loup. Comme tous les jours, Monsieur Loup part à la chasse pour attraper le petit chaperon rouge et les trois petits cochons. Mais aujourd'hui, Monsieur Loup se frotte les mains. Il a neigé toute la nuit et il a repéré les traces de pas du petit chaperon rouge dans la neige.
Quelle chance ! Monsieur Loup n'a qu'à suivre la piste. Soudain, il entend chantonner. C'est le petit chaperon rouge ! La fillette ne l'a pas entendu approcher. Elle cueille du houx, elle met dans un grand panier. Monsieur Loup bondit sur elle. Mais le petit chaperon rouge s'écrie. « Ne me mange pas, c'est Noël !» Monsieur Loup n'a que faire de Noël. Depuis le temps qu'il veut dévorer le petit chaperon rouge, pas question de relâcher son repas. La petite fille prévient. « Attention le loup, le Père Noël voit tout !»
Monsieur Loup est intrigué. « Le Père Noël, mais qui est-ce ?»«
C'est lui !» répond le petit chaperon rouge en lui tendant une photo. « C'est un vieux monsieur gentil qui t'apporte les cadeaux que tu as demandés. Hmm ?» Monsieur Loup regarde la photo de plus près. Le monsieur est bien gras. Monsieur Loup n'a jamais fêté Noël, mais avoir des cadeaux le tente bien. Et manger ce Père Noël aussi. Il pense, je pourrais demander un gros mouton rôti et ce serait quand même mieux que ce maigrichon de chaperon rouge. Mais est-ce que la fillette dit la vérité? À ce moment-là, les trois petits cochons passent sur le chemin et transportent un grand sapin. Demande-leur si tu ne me crois pas, ajoute le petit chaperon rouge. Monsieur Loup barre la route des trois petits cochons et demande « Hé, les trois saucissons, est-ce que le Père Noël existe ?»«
Ah, bien sûr que oui, mais ne nous mange pas, car si le Père Noël te voit, il ne passera pas chez toi et tu n'auras aucun cadeau sous ton sapin. »
Puis les trois petits cochons déguerpissent, Monsieur Loup relâche le petit chaperon rouge, c'est décidé, cette année, Monsieur Loup va fêter Noël. Se demande bien comment être sûr que le Père Noël passera chez lui. Il décide d'aller jusqu'au village pour en savoir plus. Dans les rues résonnent des chants de Noël et les gens ont l'air joyeux. Discrètement, Monsieur Loup s'approche d'une maison. Monsieur Loup regarde à travers le carreau. Il y a un sapin décoré, du hou accroché au mur, un bon feu dans la cheminée et des biscuits qui dégagent une délicieuse odeur. Assis autour d'une table, des enfants écrivent une lettre. Ils écrivent leurs souhaits au Père Noël. Monsieur Loup est satisfait. Une lettre, c'est donc comme ça que l'on fait savoir au Père Noël ce que l'on veut. Il est temps de rentrer, Monsieur Loup a du travail s'il veut être prêt pour le soir de Noël. Sur le chemin du retour, Monsieur Loup cueille du hou et coupe le plus gros sapin qu'il puisse traîner. Revenu dans sa maison, Monsieur Loup décore son sapin, il accroche le plus de décorations possible. Le Père Noël ne pourra pas le rater. Monsieur Loup cuisine aussi des biscuits pour attirer le Père Noël. Il dégage une bonne odeur de brûlé. Mais Monsieur Loup est content de lui. Enfin, il met une douce musique, il allume un bon feu dans la cheminée. Maintenant, il est grand temps pour Monsieur Loup d'écrire sa lettre. Cher Père Noël, je voudrais 3 cochons, 1 gros mouton et 2 lapins bien ronds. Surtout, n'oublie pas de passer. J'habite la dernière maison tout au fond de la forêt. Monsieur Loup. Il n'y a plus qu'à poster la lettre et à attendre le soir de Noël. Les jours passent et enfin, le grand soir arrive. Monsieur Loup tend son piège. 1 biscuit pour attirer le Père Noël, 1 fil pour le faire trébucher et 1 gros panier prêt à tomber sur le vieux monsieur pour le capturer. Tout ça, une fois qu'il aura déposé ses cadeaux, bien sûr. Puis Monsieur Loup met la douce musique et s'installe devant sa cheminée. Il attend ses cadeaux et le Père Noël. Mais bercé par la douce musique, Monsieur Loup se met à ronfler. Soudain, sans bruit, le traîneau du Père Noël se gare devant chez Monsieur Loup. Le Père Noël sait tout et il ne compte pas se faire dévorer. Aussi, il dépose le gros paquet de Monsieur Loup devant sa porte. Il sonne, ding-dong, et repart aussitôt sur son traîneau. Réveillé en sursaut, Monsieur Loup bondit de son fauteuil. Il ouvre la porte et découvre ses cadeaux. 3 cochons, 1 gros mouton, 2 lapins bien ronds, en peluche, et un Père Noël en chocolat. Monsieur Loup est très vexé et tout ronchon. Il rentre chez lui les bras chargés de ses cadeaux et ne voit pas le fil tendu pour son piège. Et vlan, il trébuche sur le fil et paf, le voilà capturé sous son gros panier. Cette année-là encore, le Père Noël peut terminer sa tournée et les 3 petits cochons et le petit chaperon rouge seront bien gâtés.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, une dernière.
Cette émission a été préparée et lue par Anne, Annie et Guylaine. Le montage réalisé par Claude Michel. Joyeux Noël à tous et à l'année prochaine.
Tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les bons joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.